Légendes et féeries, c'est le titre du concert donné deux fois cette semaine à partir de jeudi par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, première fois à Besançon et deuxième fois à la Maison des Arts et Loisirs de Sochaux, sous la direction de Jean-François Verdier, qui est en ligne, qui est à l'origine du titre.
Ah, mais vous posez des questions fortement indiscrètes. Les titres féeriques arrivent par eux-mêmes, puisqu'ils sont forcément magiques. La féerie, en fait, c'est l'univers de Ravel qui est mis fortement en exergue lors de ce concert, mais aussi l'univers d'un groupe de musique de chambre qu'on a invité pour ce concert-là, qui s'appelle Le Bateau Ivre, qui est un groupe de jeunes musiciens, très jeunes musiciens formidables, que j'avais rencontrés quand je participais à un jury d'un concours, et je les avais trouvés extraordinaires au point de leur proposer immédiatement de leur commander une œuvre pour eux, qu'on jouerait avec l'orchestre. C'est ce qu'on va créer à l'occasion de ces concerts, qui soit dans le prolongement de l'univers de Ravel, ce qui a beaucoup parlé à un des jeunes compositeurs qu'ils avaient contacté pour ça, qui s'appelle Florent Nagel, qui était très intéressé justement par le côté féerique de Ravel, qui a beaucoup utilisé le côté onirique et les orchestrations qui font rêver, qui font décoller. Et donc c'est un hommage, le titre, à toutes ces musiques-là. Celle de Ravel, bien sûr, puisqu'on va jouer Daphnis et Chloé, sa grande et célèbre œuvre, mais aussi le concerto pour la main gauche, mais aussi les œuvres qui pourront en découler, comme celle de Nagel.
Quitte à avouer une ignorance coupable, je veux dire que, alors, il y a des monuments, vous avez cité le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. Mais il y a aussi alors des compositeurs dont le nom nous est à peu près inconnu. Vous venez de citer Florent Nagel, mais qui est né, je crois, en 1979. Alors, on va dire que c'est un jeune compositeur. Et puis, alors, un autre compositeur qui est Jean Crasse.
Oui, alors Jean Crasse, c'est un compositeur qui est évidemment plus de notre monde, puisqu'il était un contemporain de Ravel. Jean Crasse est un compositeur tout à fait étrange, dans le sens où il a fait une carrière qui n'était pas une carrière musicale, puisqu'il a il était marin de profession, marin militaire. Pendant ses voyages longs et divers et renouvelés en mer, c'est quelqu'un qui a développé un univers musical tout à fait particulier, puisqu'il avait en fait assez peu de contact avec ses contemporains musicaux, étant forcément loin, et que il a un langage tout à fait particulier, mais très très beau. Et sa carrière particulière aussi a fait que il n'a été découvert ou redécouvert que peu à cette époque-là, et assez peu par la suite. Or, ce Jean Crasse, il a écrit des choses fantastiques, et là il y aura un quintette qui va être joué par le Bateau Ivre, tout seul, qui est peut-être son œuvre maîtresse la plus belle, la plus poétique, et qui est celle qui a regroupé en fait ce quintette. C'est leur œuvre fétiche. C'est vraiment une très 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 jolie atmosphère et des choses qui sont magnifiques, un peu dans l'air du temps, alors l'air marin du temps, mais comme Ravel, Debussy n'aurait pas renié ces harmonies et ces magnifiques transports qu'il décrit.
Thank you. Alors revenons à Florent Nagel, dont on a rapidement parlé en début de notre conversation. Alors cette fois, l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, que vous connaissez bien et pour cause, va se trouver associé au Bateau Ivre.
Oui, absolument, puisque c'est l'œuvre qu'on a donc commandée pour eux, en voulant que ça soit aussi effectivement pour un jeune compositeur. Alors jeune compositeur, on peut dire qu'à 20 ans on peut être un compositeur, c'est pas impossible, mais jeune compositeur à l'âge de Florent, c'est-à-dire à peine 40 ans, c'est le début de son parcours. Alors il a déjà écrit pas mal de choses, notamment des pièces que nous connaissons qui ont été beaucoup jouées par les dans la littérature jeunesse, mais aussi plein d'autres choses. Et en fait, je leur ai proposé au Bateau Ivre de choisir un compositeur à qui nous allions commander. Et donc je leur ai proposé plusieurs noms de gens que je pensais tout à fait adapté, et c'est eux qui ont choisi Florent Nagel, donc ils ont toute confiance dans son écriture, et c'est la première évidemment qu'on va jouer, sachant que à l'orchestre on aime bien faire des premières, on en aura encore une autre le concert suivant, et c'est tout à fait intéressant d'avoir des gens qui renouvellent le discours musical en forcément en s'appuyant sur ce qui a été fait avant, puisqu'en fait on invente finalement assez peu de choses en partant de rien dans la musique, comme dans le reste de l'humanité. Si on connaît pas les prédécesseurs, on a quand même du mal à pouvoir écrire maintenant de la musique en France si on connaît pas bien Ravel, Debussy, etc.
Est-ce que ça veut dire que le temps de répétition qui va précéder l'immédiat des concerts va être une sorte de dialogue entre le Bateau Ivre, le compositeur et le chef d'orchestre?
Alors le dialogue a déjà commencé depuis un certain temps. Ne serait-ce que parce que le Bateau Ivre a une particularité tout à fait remarquable, c'est qu'ils jouent tous leurs concerts absolument complètement par cœur. Donc
sans partition,
voire absolument sans rien. Voilà. Donc pour ça, évidemment, ça demande un temps de préparation long. Et donc ils travaillent avec Florent Nagel depuis l'été dernier déjà. Et puis là, c'est la dernière ligne droite. Donc, effectivement, l'orchestre arrive à la fin. Après, un compositeur ne entend vraiment son œuvre en réel que quand les musiciens la jouent. C'est-à-dire, il a beau l'avoir complètement dans la tête quand il l'écrit, il y a toujours parfois soit des surprises, soit des choses à toucher au dernier moment, parce qu'il y a des choses qui, dans telle salle ou à tel endroit ou avec tel effectif, tel nombre de musiciens, sonnent un peu différemment de ce qu'il avait prévu. Donc, jusqu'à la fin, une œuvre est encore en gestation jusqu'au moment où on la donne.
Jean-François Verdier, on a évoqué Maurice Ravel. Alors, il y a la suite Daphnis et Chloé, le concerto pour la main gauche, alors qui est à la fois un monument et en même temps une prouesse technique. Quelques mots peut-être sur Rémy Génier?
Absolument. Alors, Rémy Génier, c'est un formidable jeune, très jeune pianiste français qui va beaucoup faire parler de lui dans les temps à venir. Il a vraiment des capacités techniques formidables, vraiment de plus haut niveau. Et donc, on l'accueille cette fois-ci avec une seule main, puisque le concerto de la main gauche, il a le droit de se servir que de la gauche, évidemment. Vous connaissez l'histoire de ce concerto qui a été écrit par Ravel pour un pianiste qui s'appelait Wittgenstein, qui avait perdu l'usage de sa main droite pendant la guerre, et qui était un grand virtuose avant, et qui a donc commandé à Ravel et à quelques autres des œuvres où il ne pouvait se servir donc que de sa main gauche. L'œuvre de Ravel pour la main gauche est devenue célèbre, d'abord parce qu'elle est très belle, mais aussi parce qu'elle fait complètement oublier, en l'écoutant, qu'il n'y a qu'une seule main qui joue, tellement c'est virtuose, mais tellement c'est bien fait. Et donc Rémy Génier, franchement, c'est le personnage à qui il fallait confier ça, mais on espère le retrouver avec ses deux mains très bientôt pour d'autres aventures avec l'orchestre.
Jean-François Verdier, est-ce que je peux terminer notre conversation par une question sur l'œuvre mystère?
Ah, on ne dit jamais rien sur les œuvres mystères, mais allez-y toujours.
Alors tant pis, enfin ou tant mieux, on la découvre donc avec le reste du programme bien sûr, ce jeudi soir au Théâtre Le Doubs de Besançon, et ce vendredi cette fois à la Maison des Arts et Loisirs de Sochaux.